Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui et régulièrement Monsieur le professeur Rigaud, chirurgien vasculaire au CHU de Poitiers, qui vient régulièrement nous témoigner d'une pratique éthique en médecine. Vous êtes, Monsieur le professeur, avant tout un passionné de chirurgie et vous parcourez le monde pour partager et faire progresser votre discipline. Après avoir commencé vos études en France et votre apprentissage, vous partez exercer pendant 3 ans à Chicago et vous vous dirigez rapidement vers le bloc opératoire pour faire performer votre technique. Votre activité s'oriente ensuite vers l'enseignement et la recherche et s'enrichit d'une activité éditoriale internationale. Vous êtes d'ailleurs rédacteur en chef de l'une des 2 revues mondiales de référence en chirurgie vasculaire et auteur de plus de 100 articles. Au-delà de ces activités, il est licite de signaler que vous appartenez depuis 2013 à l'Académie nationale de médecine, à laquelle vous apportez toujours une brillante collaboration. Ce qui nous touche dans ce prestigieux parcours, c'est votre humilité, propre au plus grand, et votre souci permanent d'apporter votre soutien aux plus démunis. Ainsi, récemment, vous êtes allé porter votre aide en Ukraine, après avoir partagé beaucoup en Afghanistan, à Bagdad et au Cambodge, et plus récemment formé de jeunes médecins, donc aux techniques de chirurgie musculaire, au Vietnam. Vous venez aujourd'hui nous parler de vieillissement de population. C'est un sujet qui nous touche beaucoup et nous allons beaucoup apprendre sur l'organisation à venir du système de santé, qui est un point principal et qui a été réactivé par le Covid-19 il y a 2 ans. Nous sommes sûrs que votre propos va enrichir notre réflexion, car il s'agit d'un enjeu éthique et sociétal. D'ores et déjà, nous vous en remercions.
Vous m'entendez ? Bon. Alors, j'ai une formation qui n'est pas liée au vieillissement. Je ne suis pas gériatre, hein. Mais je me suis intéressé au vieillissement. D'abord, en chirurgie vasculaire, la plupart des patients ont plus de 60 ans, souvent plus de 70 ans. Donc on a affaire à des gens qui ne sont pas très jeunes. On connaît la pathologie, on voit les limites. On voit les complications liées à l'âge qu'on n'a pas chez les gens plus jeunes. Donc ça, je connaissais ça depuis le départ. Ensuite, à l'Académie de médecine, on a beaucoup travaillé sur le vieillissement, les EHPAD, en rapport ou non, ou pas en rapport avec l'épidémie Covid. Et enfin, personnellement, j'ai été saisi du problème. La vie est toujours pleine de surprises, dans la mesure où mon épouse a développé, il y a 3 ans et demi, une maladie d'Alzheimer qui est rapidement devenue assez sévère. Et pendant 3 ans, j'ai été sans des dents à la maison, en essayant de jongler entre tout ce que j'avais à faire et ce que je devais lui rendre comme service. Donc j'ai vu les difficultés. Et puis ensuite, on a dû se décider à la placer en EHPAD. Et à la fin de l'année 2022, et là, ça ne se passe pas simplement. Et donc là, il y a d'autres difficultés. Et c'est tout à fait... j'ai vu en direct ce qu'on avait constaté dans les enquêtes de l'Académie. Donc c'est un problème qui me semble extrêmement important, parce que sauf si on meurt avant d'un accident ou d'une maladie, d'un bon cancer, on va tous vieillir. Et donc tout le monde va y être confronté. Alors, le vieillissement, c'est tout simple. Hein. C'est l'ensemble des modifications fonctionnelles qui diminuent en fait l'aptitude d'un organisme à faire face à ses fonctions, à la demande, et ça évolue avec le temps. Alors, pour être pratique en Nouvelle-Aquitaine, sur des statistiques faites en 2018, mais qui sont les mêmes actuellement, ou même un peu aggravées, on retrouve pour 100 personnes actives, 62 personnes de plus de 60 ans. Alors, on est parmi les zones, les régions européennes où il y a le plus de personnes de plus de 60 ans, avec une région en Allemagne, en Saxe, où ils ont un peu plus de personnes de plus de 60 ans, mais la différence entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Allemagne, c'est qu'on a un taux de renouvellement et des naissances qui sont quand même plus élevés en Nouvelle-Aquitaine qu'en Allemagne. Donc on a peut-être là une perspective, bien que la natalité ait baissé ces dernières années, elle a moins baissé en Nouvelle-Aquitaine. Alors, simplement, vous avez sur ce graphique le pourcentage des adultes âgés de plus de 65 ans et de plus de 85 ans en France et dans l'Union européenne. En gris clair, c'est 60 ans, et en gris foncé, c'est 85 ans. Et vous voyez qu'on est passé de 2018 avec une prospective pour 2050 qui est à peu près sûre, on est passé de 20% à 26% de personnes de plus de 65 ans. Et pour les 80 ans, ben on est passé de 8,3% à 11,2%, ce qui est quand même important, avec des chiffres à peu près comparables dans l'ensemble des pays européens. Alors, l'allongement de l'espérance de vie, conjugué à la baisse de natalité qu'on constate depuis plusieurs années, représente, il est certain, un défi économique important pour le financement des retraites. C'est à la mode. De la dépendance, on en parle plat, mais ça c'est regrettable, mais aussi évidemment pour la productivité économique. Alors, quand devient-on vieux? Alors, pour l'OMS, c'est 65 ans ou plus. La définition sociale, en fait, le bon sens, c'est l'âge de cessation de l'activité. Quand on est retraité, on dit, bon, c'est un vieux. Pour les institutions, c'est 75 ans. Le troisième âge, c'est entre 65 et 89 ans, c'est pas très précis. Et le grand âge, tout le monde est à peu près d'accord, c'est plus de 90 ans. Mais en fait, la notion d'âge est très fortement corrélée à l'environnement social et culturel. Ainsi, l'on est vieux en entreprise à 55 ans. Hein, bon, ce qui est un peu regrettable, parce qu'on peut, on a une expérience, on peut produire pas mal de choses entre 55 et 65 ans. Alors que pour le grand public, eh bien, la vieillesse commence à peu près à 70 ans. Alors, il y a l'histoire de Jeanne Calment, qui est décédée en ayant vécu 122 ans et 164 jours. C'est la personne connue la plus âgée de l'histoire, mais vivre jusqu'à cet âge est un exploit et le corps humain n'est pas programmé pour un vieillissement extrême. Alors en fait, notre capacité de survie est fixée à environ 90 ans. Alors évidemment, comme toujours en statistique, il y a des bornes, des intervalles de confiance, peut-être un peu moins, un peu plus, mais en gros, on a une limite physiologique à 90 ans. La mort étant quelque chose de tout à fait naturel, succédant à la vie, et pas une surprise. La seule surprise, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, mais on sait que ça arrivera. Alors, la physiologie du vieillissement, je ne vais pas vous embêter avec des détails biologiques, d'autant qu'il y a au moins une centaine de théories. Néanmoins, il y a des choses qui sont certaines, c'est que la plupart des cellules ont une durée de vie maximale qui est génétiquement déterminée. Le processus peut être accéléré par des stress, hein, des agressions, une pathologie, un cancer, une maladie d'Alzheimer. Mais on ne meurt pas que vieux. Hein. On peut mourir jeune d'un cancer, d'un traumatisme. Hein. La vieillesse, il n'y a pas que la vieillesse qui conduit à la mort. Hein. Néanmoins, le vieillissement est programmé, il faut le savoir. Une cellule ne peut pas se diviser indéfiniment. dès qu'elle a atteint sa limite, elle arrête de se dupliquer. Alors, c'est lié au raccourcissement des télomères sur les chromosomes et la méthylation de l'ADN. Il y a d'autres théories aussi sur ce qui se passe dans le cytoplasme de la cellule. Mais sachez qu'elle a un début et elle aura une fin. Et tout suit. Hein. Donc, on va voir plus en détail les conséquences. Alors, tout d'abord, il faut savoir le cristallin de l'œil, il commence à vieillir à partir de 11 ans. Ça commence très tôt. Hein. Et les capacités sensorielles vont diminuer avec l'âge. Alors, ça se traduit par une instabilité de posture, des petits déséquilibres, une altération progressive de l'audition, de la vue, presbytie, cataracte, etc. Il y a aussi un vieillissement musculaire qu'on appelle la sarcopénie. La masse musculaire et la force musculaire diminuent. Et donc, on peut faire moins d'efforts. On a moins à sa disposition de possibilités dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a la fonction circulatoire. Même sans parler de maladie, l'athérosclérose qui durcit les vaisseaux, les rétrécit un peu. La fonction locomotrice, il y a l'ostéoporose, hein, avec des fractures spontanées qui sont possibles, qui peuvent gêner la déambulation, fractures spontanées du rachis, hein, fractures du col du fémur qui sont connues. La fonction, le vieillissement articulaire, ben, c'est l'arthrose, hein, que tout le monde connaît. La fonction respiratoire, les muscles respiratoires vont diminuer leur de force et donc vous aurez une diminution de la capacité vitale. Hein. Donc pour ceux qui font de la marche, du jogging, etc., eh bien, au fur et à mesure de l'âge, même s'ils sont entraînés, il va falloir qu'ils diminuent leurs exigences parce qu'ils ne pourront pas, ça ne pourra pas suivre. Et puis il y a une chose importante, c'est l'état nutritionnel. Mais ça, c'est pour les âges un peu plus avancés, quand les gens commencent à être dépendants, il y a des problèmes de nourriture, d'alimentation qui viennent encore aggraver les choses. Alors, finalement, ce qu'on voit aussi le plus et ce qui est le plus angoissant, c'est les aspects psychomoteurs et la fonction cognitive. D'abord, il y a des petits troubles de l'équilibre, une démarche de vieux, comme on dit, qui est hésitante, on bute sur les marches, il y a quelques tremblements quand on passe de l'état de repos à l'action. Hein. Et puis, progressivement, il y a des troubles de la mémoire. Bon, on oublie un petit peu, c'est pas très grave. Et puis, progressivement, quelquefois, du langage et de l'écriture. Évidemment, dans les formes très, très évoluées, comme... la maladie d'Alzheimer ou les pathologies qui sont similaires, vous avez des troubles extrêmement sévères avec une aphasie, une impossibilité de s'exprimer ou de comprendre, ou les deux, ou qu'un, qui vous isole complètement dans une bulle. Hein. Et ça, c'est une aggravation majeure du vieillissement. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Le cerveau est bien protégé, mais quand il lâche, on est extrêmement mal. Il semblerait que le maintien d'une activité cérébrale le plus possible est un facteur qui diminue le risque de vieillissement cérébral, d'apparition de ces troubles. Alors, ce n'est pas prouvé, mais il y a eu quelques études quand même sérieuses qui semblent le montrer. Alors, faire travailler son cerveau, ce n'est pas être allongé dans un canapé et regarder la télévision, hein. Ça, c'est complètement passif, vous apprenez rien. C'est écrire, faire un journal, lire, avoir des activités de jeu, n'importe lesquelles, les échecs, le Scrabble, ce que vous voulez. Hein. Mais vous se servir de votre cerveau. Il faut absolument continuer à avoir une activité intellectuelle et si possible, coupler une activité manuelle. Car les deux fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, les cinq piliers d'un vieillissement harmonieux qu'on voit traîner partout, ça, c'est un marronnier. Hein, il faut être en bonne santé. Bon, c'est évident, il vaut mieux, quand on vieillit, ne pas être malade. Le logement est quelque chose de très important. Être dans un logement qu'on connaît, dans lequel on est bien, qui est bien chauffé, qui est agréable. La vie affective, La famille, c'est très important quand on vieillit. Mais quelquefois, ils sont morts ou éloignés, donc c'est pas si évident que ça. La vie sociale avec tous les amis et les associations auxquelles vous pouvez participer. Et les ressources sur lesquelles on discute pas trop, mais qui sont extrêmement importantes, surtout dans la dépendance, car la dépendance a un coût extrêmement élevé pour celui qui est dépendant et pour son entourage. Et si vous n'avez pas de ressources, et ben vous êtes encore plus mal dans votre malheur. Alors, il y a une... je suis pas un fan de Simone de Beauvoir, mais elle a fait un bouquin qui s'appelle « La vieillesse ». Et dans ce livre, elle dit une chose qui est extrêmement importante que j'ai transcrit là, parce que ça me semble résumer en quelques lignes ce qu'il faut tenter de faire. Elle écrit « Continuer à faire ce que l'on a toujours fait, quand c'est possible. » Ou « Opérer une sorte de transfert pour appliquer sa force de travail à des activités plus appropriées à un état physique modifié par le vieillissement » ou les contraintes sociales. C'est exactement la philosophie qu'il faut avoir. Hein. C'est extrêmement simple. Pas besoin de faire des lois. Hein. Pas besoin d'aller mettre son nez dans des bouquins de philosophie ou de biologie. C'est exactement ça qu'il faut tenter de faire. Le problème, c'est que le sujet âgé est fragile. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre comment il est fragile. La fragilité est un état qui est instable et qui résulte de la réduction des capacités d'adaptation dont je vous ai parlé. Elle s'aggrave avec l'âge. Hein. Elle entraîne évidemment une augmentation du risque de dépendance suite à des événements qui sont quelquefois des événements importants, mais quelquefois minimes. Hein. Personne de 80 ans qui circule, qui se fait arracher son sac, piquer ses papiers, c'est un stress énorme. Elle n'est pas son corps n'est pas atteint, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de catastrophe, mais les papiers sont perdus, les clés de la maison, on ne sait pas où elles sont, elle est perdue. Et ça, c'est un stress important. De la même façon, être agressé dans un lieu public par une bande de gens qui vous bousculent, etc., c'est un stress. Donc, il y a ces petits stress peuvent favoriser des complications graves. Alors, quand le sujet est en forme, si vous voulez, quand le stress survient, il y a un trou d'air, hein, ça ne va pas pendant quelques jours, mais le seuil de défaillance, de dépendance n'est pas atteint. Et finalement, le sujet âgé en forme arrive à récupérer une fonction relativement, une vie relativement comme avant, je dirais, dans les jours qui suivent. Néanmoins, il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent. Et puis, le sujet qui est fragile, là, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'il va avoir un stress, il est déjà fatigué, il a des problèmes à la marche, etc. Et là, il va tomber sous le seuil de défaillance, et il va être extrêmement difficile de remonter. Et c'est là où se pose le problème de la prise en charge. Parce qu'il n'est plus autonome. Il ne peut plus gérer sa vie seul. Il a besoin d'une aide. Et c'est là où, en tant que pays, que rôle de citoyen, si vous voulez, on est amené à se poser des questions. Parce qu'en fait, on peut dire que l'État est très défaillant dans cette prise en charge des personnes qui sont défaillantes. Ce n'est pas les vieux, c'est les défaillants. Les vieux des défaillants. Ça s'applique aussi aux jeunes quand ils sont des défaillants. Parce que quelqu'un qui a 50 ans, qui par malheur... chez lequel on détecte une maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative, il est défaillant aussi. Donc ce n'est pas obligatoirement lié à l'âge, mais c'est plus fréquent évidemment avec l'âge. Alors, en dehors de la courbe qui chute là, qui traduit le vieillissement pathologique, vous voyez qu'on passe de la bonne santé à la zone de préfragilité, de fragilité et de dépendance. En fin de compte... chez les gens qui sont en bonne santé, un vieillissement non normal assez tard, vers 80-90 ans. Hein. Et ça, c'est physiologique. Il n'y a plus de replication cellulaire, les fonctions diminuent, etc. Hein. Bon, il y a toujours des exceptions, des gens qui sont brillants à 90 ans, mais n'y comptez pas trop. Hein. Et puis, il y a ceux qui baissent avant, qui ont une fragilité, et il y en a certains qui vont pouvoir récupérer la courbe du haut grâce à des aides, et puis il y en a d'autres qui vont rester dans la dépendance. Alors, il faut voir, il faut comprendre les souhaits des personnes en perte d'autonomie à domicile. Ça, c'est une question qui me semble extrêmement importante, et ces personnes qui sont vulnérables souhaitent le plus souvent vivre chez elles, même avec des incapacités importantes. Ça, quand on pose la question, quand ils sont capables d'y répondre, hein, c'est rester à la maison. Bon. Alors, le problème, c'est que le maintien à domicile est extrêmement difficile en raison de la diversité des besoins médicaux, sociaux, financiers, juridiques, de la multitude des acteurs, il y a famille, les bénévoles, des professionnels qu'il faut mobiliser, et on a, l'État a fait une espèce d'usine à gaz où déjà quelqu'un qui est bien cortiqué, qui connaît tous les trucs, a du mal à trouver où il faut aller, mais quelqu'un qui est dépendant, absolument pas. C'est impossible. Donc, on leur offre rien en pratique. D'autant plus que c'est pas simple et c'est aggravé si vous avez des troubles cognitif, parce que là, c'est encore plus compliqué. Le consentement éclairé, la discussion, l'information, ça devient des paroles verbales qui n'ont pas un grand intérêt. Alors en fait, ce qu'il faudrait essayer de faire, et ce qui n'est pas du tout fait, c'est quand le problème... D'abord, il faut le savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls dans leur logement, et puis c'est le voisin qui est un peu inquiet, qui prévient tel un tel... Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est la catastrophe quand on entre dans l'appartement, etc. Mais d'abord, il faut savoir. Ensuite, il faut évaluer. Et là, on n'est pas dans la médecine. Hein. On est dans un rôle social. Hein. Donc, on évalue le déficit, on évalue la dépendance, on évalue les possibilités, la situation économique de la personne. C'est très important. Parce que très vite, on va arriver au sous. Hein. Ce à quoi elle a droit. Il faut ensuite essayer d'en informer non seulement elle, mais la famille, si ça l'intéresse, pour y discuter. Il faut essayer de respecter le choix de la personne, si elle est capable d'émettre un choix. Ensuite, on décide d'une orientation, on élabore un plan d'aide, on met en œuvre le plan d'aide et on assure un suivi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Il faudrait que ce soit fait par une structure. Il n'y a personne qui le fait. Il y a des petits bouts, là et là. Par exemple, quand vous avez un Alzheimer, il y a France Alzheimer, vous prenez... ils sont très très gentils. Ils ont la possibilité de venir 10 fois par an voir la personne, ce qui ne peut pas résoudre le problème. Hein, c'est évident. Donc, en fin de compte, sauf s'il a une famille très proche qui va tout prendre en charge, et si vous voulez, la personne est un peu perdue. Alors, les besoins sont importants, il faut bien les voir. D'abord, il y a ceux qui concernent l'entretien de la personne. Le suivi de sa santé mentale. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle se perd dans l'appartement? Est-ce que des choses très pratiques? Est-ce qu'elle elle devient dangereuse pour elle-même? Est-ce capable de mettre le feu dans son... etc. Elle est capable de fuguer, de... Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la gestion des médicaments. Il ne s'agit pas seulement de faire une ordonnance. Il faut s'assurer que les médicaments, si elle en a besoin, sont pris. Ce qui n'est pas évident. Quelquefois, ils les prennent, ils les crachent. Ensuite, il y a des excès. Il faut ne pas oublier les accès aux services de santé. Quand vous avez une ostéoporose, vous avez besoin de temps en temps d'une ostéodensitométrie, éventuellement de perfusion de Daclastat, etc. Et donc, il faut prendre un rendez-vous, il faut aller à l'hôpital, il faut que quelqu'un s'en occupe. Les conseils diététiques, quand les gens sont seuls, ils bouffent n'importe quoi et mal en général. Et puis, il y a les aides très pratiques. Hein. Alors, moi, il fait ça pendant 3 ans, c'est la toilette, la douche le matin, l'habillage... la couche, parce que souvent il y a des pertes d'urine ou de sel, hein. Garder les gens propres, c'est extrêmement important. Leur garder un visage humain. Les garder comme des êtres humains respectables, et l'apparence et ce service qu'on doit leur est extrêmement important. Il faut assurer le lever, être là, le petit déjeuner, le coucher, s'assurer que tout va bien. Et donc vous voyez que ce sont des choses qui ne sont pas des paroles en l'air, c'est important. Il faut aussi essayer d'informer la personne. Quand elle peut comprendre, il faut lui expliquer sa perte d'autonomie progressive, lui dire au lieu d'aller faire la grande balade ou la traversée de la ville, il faudrait qu'elle restreigne un petit peu et qu'elle marche avec une canne, qu'elle fasse attention quand il pleut, quand ça glisse, etc. L'utilisation des nouvelles technologies, il y a plein de choses sur Internet, c'est sûr, mais les gens âgés ne l'ont pas connu quand ils étaient jeunes. Et en général, il y a un blocage. On peut essayer, hein, il y a des choses, il y a des téléphones qui peuvent permettre de déclencher des alarmes. Encore faut-il appuyer sur le bouton. Ou alors il y a des téléphones qui les déclenchent automatiquement quand les gens tombent. Mais comme il y a une confirmation qui est demandée en général, quelquefois ils n'appuient pas dessus. Bon, c'est pas très simple. Mais ça peut être développé, mais en pratique, c'est actuellement d'un intérêt assez limité, ça peut s'améliorer. Il y a surtout un besoin de relation avec des êtres humains, et pas des coups de téléphone, et pas des connexions Internet, des gens qui viennent voir, qui vous serrent la main, et qui discutent avec vous. Ça, c'est extrêmement important, le langage... l'entretien social, et il faut aussi, parce que évidemment l'administration, y compris fiscale, ne vous oublie pas, il faut donner à ces gens un support pour la relation avec l'administration, parce que pour éviter que des factures ne soient pas payées, que des renseignements stupides qui se font sur des pages de 4 pages où on ne comprend rien, même quand on est à peu près normal, ça bloque la situation. Donc il faut les aider aussi à ce niveau. Et vous voyez très bien que pour tout ça, il n'y a personne qui s'en charge. Hein. C'est des aides, des bonnes volontés à droite, à gauche, mais il n'y a pas d'organisation qui centralise les choses pour les prendre en main quand vous êtes à domicile. Et c'est pour ça que, contrairement à certains pays du nord de l'Europe, le maintien à domicile en France, c'est quand même assez limité. Dès qu'on arrive dans la dépendance, c'est hop, EHPAD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'admission en EHPAD, quand la personne est consciente, c'est un déchirement, et quand elle n'est pas consciente, pour la famille, c'est un déchirement quand même. À moins de vouloir s'en débarrasser, mais ça, c'est une autre affaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est extrêmement important, c'est que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes n'est pas une maison de retraite dans laquelle on vient de son plein gré pour passer des jours calmes et agréables. C'est un lieu de vie médicalisé dans lequel on vient contraint parce qu'on est dans l'impossibilité de rester à domicile en raison d'un niveau élevé de dépendance. Alors, c'est pas la tôle, mais pas loin. Hein. Il faut voir ce que c'est. Et quand on est dedans, on voit encore plus ce que c'est. Hein. C'est pas un hôpital. Hein. Alors, certains EHPAD peuvent fournir d'autres modalités de prise en charge que l'hébergement permanent. Il y a l'accueil de 2 jours. Bon, il faut amener la personne le matin vers 9h, la reprendre vers 4-5 heures. Donc ça dégage du temps dans la journée, c'est sûr, mais ça ne résout pas le problème du matin, de la toilette, du petit déjeuner, ça ne résout pas le problème du soir. Ça ne s'applique pas à des gens quand l'entourage a des obligations, n'est pas, disons, dans la maison tous les jours, ça pose un problème. D'autre part, les horaires des EHPAD des accueils de jour ne collent pas vraiment avec ceux des salariés, parce que l'accueil se fait assez tard et on doit reprendre la personne assez tôt. Là, il y aura une amélioration à faire. Néanmoins, c'est une possibilité pour un certain temps, pour soulager les dents au moins une partie de la journée. Il y a l'hébergement temporaire, donc on met la personne pendant 15 jours entièrement en EHPAD, mais bon, on repousse la décision, mais ça ne résout pas vraiment le problème. Il y a les unités d'hébergement renforcées auxquelles je rapprocherai les unités de soins Alzheimer, qui sont des zones protégées avec un code pour entrer, donc il n'y a pas de fugue qui est possible. C'est, en général, c'est un lieu qui est circulaire. Il y a plein de chambres, ça va entre 10 et 16, hein, dont les portes sont toujours ouvertes, hein, parce que les Alzheimer se perdent, rentrent dans n'importe quelle chambre, etc. Donc c'est banalisé, tout le monde rentre dans les chambres. Bon, c'est pas... Et ça évite les conflits, hein, puisque c'est ouvert. Il y a une zone de vie centrale où il y a quelquefois des ateliers, une cuisine ouverte où les gens qui sont là voient comment est faite la nourriture, peuvent y participer. Hein, ils gardent quelquefois des fonctionnalités, mais c'est clos. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Alors, vous pouvez adoucir les choses ou récupérer, car vous avez quand même, si vous êtes les dents, vous pouvez récupérer la personne un ou deux jours par semaine, par exemple le week-end à la maison, hein, c'est ouvert, hein, vous pouvez le faire. Hein, et c'est une bonne chose, tant que c'est possible, qu'il n'y a pas de fugue à la maison, etc., vous pouvez le faire. Mais c'est quand même une zone qui est contrainte. Hein. Alors, l'EHPAD est pour ce qu'on appelle GIR1 à GIR4, c'est-à-dire GIR, c'est la classification de la dépendance. GIR1, on est complètement grabataire, on ne peut plus marcher. Hein. Et GIR4, on a besoin d'aide assez fréquente. Et entre les deux, il y a GIR2, GIR3. Et puis, les foyers, le logement, c'est plutôt pour GIR5 ou GIR6, où les gens ont besoin d'une aide qui est ponctuelle. Alors, depuis 15 ans, ce problème du vieillissement, de la dépendance, il y a même eu des ministres, hein, qui sont occupés de la dépendance. Alors, il y a de grands textes de loi, des enquêtes qui ont été faites pour organiser la prise en charge continue des personnes âgées fragiles entre la ville, les EHPAD, l'hôpital, etc. Il y avait des plans pour structurer des partenariats entre les différents acteurs au sein des établissements de santé. En fait, ce qu'on a vu, c'est que l'État s'est retiré et que 95%, 90% des EHPAD sont privés. Donc, il a retiré ses billes et il a considéré que, voilà, bon, on passait à autre chose parce que ce n'était pas prioritaire. Alors, en fin de compte, une ancienne ministre, Michèle de Delaunay, qui était ministre justement du grand âge, etc., a fait au cours de l'élection présidentielle, je crois, la dernière, elle a fait une lettre pour expliquer qu'effectivement, les présidents ont repoussé le grand âge, et ça continue d'être le cas. Hein, dans la campagne présidentielle, le grand âge est apparu nulle part. Hein. Et dans l'allocation de Macron sur la santé, le grand âge est absent. Hein. Donc ce n'est pas du tout une priorité. Hein. Donc c'est un peu navrant parce qu'on aboutit à des situations qui sont catastrophiques. Là, c'est un dessin humoristique, mais ce n'est pas vraiment marrant. Vous avez dans les EHPAD des gens âgés qui ne peuvent plus marcher, donc ils sont sur des chaises à roulettes et qui tournent en rond, hein, dans les couloirs. Et puis, bon, quand c'est l'heure de la bouffe, bon, ben, on les descend, on prend un ascenseur, on les nourrit, et puis après, ils retournent, ils refont les tours. Ceux qui ne peuvent pas, même les trucs, ils restent dans leur lit, puis on les lève, on les fait manger, puis on les recouche, et c'est tout. Hein. Il n'y a pas le personnel pour une animation, une prise en charge. Alors, il y a un psychologue qui vient 2 heures par semaine dans une EHPAD, il y a 60... pas patient, vous voyez ce que ça peut faire, rien. Hein. Un kinésithérapeute, on se demande, il vient 1 heure, donc bon, il fera rien. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas la prise en charge qu'il faut faire. D'ailleurs, la Cour des comptes a bien dit qu'effectivement, le compte n'y était pas, ce qu'il y a de le dire, et qu'il y avait une faiblesse structurelle des EHPAD. Donc, l'avenir n'est pas très gai quand on est dépendant. Alors, on aboutit, je ne vais pas parler longtemps, je vais écouter vos questions, je pense que vous en avez peut-être. Il y a quand même en arrière-pensée, dans le vieillissement, l'histoire de la mort. Hein. Et alors, c'est pas un scoop. Et donc, il faut quand même savoir de quoi on parle. Parce que, pour avoir vu pas mal, je dirais que chaque mort est unique. Hein. Elle dépend du contexte de vie, du contexte de mort. Hein. Il y a des conditions très, très différentes. Il y a un droit de vie, il y a un droit de mort. Et puis, il y a des droits moraux et des droits légaux. Et il y a des gens qui font des lois, il y a des gens qui pendant des mois et des mois discutent dans le comité consultatif national d'éthique de comment on peut soulager, etc. Et je pense qu'ils font un très bon travail, mais en pratique, pour un observateur et un médecin, le problème est finalement beaucoup plus compliqué et beaucoup plus simple. Alors, la première chose, c'est quand on a un mourant, quand on est en face d'un mourant, il faut donner les meilleurs soins possibles sans oublier d'informer les proches. Parce que très souvent, on est pris dans le truc, on fait les soins, on évite qu'il souffre, on évite qu'il meure de faim, on évite qu'il meure de soif, parce que ça, c'est horrible, c'est vraiment, on ne peut pas faire ça. Et on le soulage, mais on oublie quelquefois de prendre le téléphone parce que dans les EHPAD, par exemple, quand vous avez une infirmière pour 60 résidents, c'est un peu difficile, autre chose à faire. Et découvrir qu'il est mort sans être prévenu, c'est assez désagréable. L'autre problème, c'est que très souvent, avec le grand âge, les troubles cognitifs sont importants et ça altère la compréhension, ça limite le consentement éclairé, évidemment. Puis, ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est signé que par 2% des gens, donc ça aide pas beaucoup la conduite des médecins ou des infirmières. En sachant que dans les EHPAD, les gens ont affaire à des infirmières avant tout, hein. Pas tellement à des médecins, hein. C'est médicalisé, mais c'est pas un hôpital. Hein. Donc, c'est l'infirmière qui va se renseigner, essayer, téléphoner au médecin traitant. Une fois sur deux, ça ne dérange pas, parce qu'il est débordé. Et si vous voulez, c'est un peu comme à la maison, un peu mieux peut-être, parce qu'on donne une apparence médicale, mais c'est pas un hôpital. Hein. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a... Il y a un besoin de faire évidemment une loi, une prise en charge économique. La situation actuelle, ça va être difficile. Déjà qu'ils n'arrivent pas à gérer des hôpitaux qui devraient fonctionner normalement. Donc je pense que tant que l'administration sera à la tête de la santé et pas les praticiens et pas les malades, c'est un peu foutu. Hein. Et c'est pas, ça changera pas. Il suffit d'aller au ministère de la Santé pour pouvoir cette usine avec 1500 bureaux et très peu de médecins et des gens qui remplissent des formulaires et des feuillets Excel et qui s'intéressent uniquement aux coûts économiques et pas aux patients, si vous voulez. Je suis assez pessimiste. Alors, il n'y a aucune solution vraiment satisfaisante au regard de celui qui va mourir. Mais je dirais qu'il faut avoir du courage, il faut assurer une présence. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans la chambre, dire « Oh là là, puis se barrer. » Hein. Parce que si vous avez été dans un hôpital, un jour, vous avez été quelquefois sur un brancard, et quand on trimballe les gens dans le brancard, ils voient, tout ce qu'ils voient, c'est le plafond. Hein. Et puis les gens qui tirent le brancard, qui discutent du dernier match de foot... C'est un peu des déprimants, si vous voulez. Et quand la personne meurt, même si elle ne s'aperçoit pas qu'elle va mourir, vraiment, elle est seule, devant un mur. Et voilà. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut rester. Il faut prendre la main, ça fait un contact. Il faut essayer de parler, si elle comprend quelque chose. Mais il ne faut pas s'en aller. Il ne faut, faut pas dire, oh là, parce qu'on a un peu peur, donc voilà. Il faut assurer une présence et un soulagement de la douleur. Et dans le monde entier, ça marche. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui s'éteint doucement en serrant la main, en ayant une présence humaine. C'est extrêmement important. Alors, pour vous, pour moi, pour notre mort, je dirais qu'il ne faut pas trop y penser parce que quand nous sommes là aujourd'hui, hein, ben la mort n'est pas là. Hein. Et quand la mort sera là, on ne sera plus là. Donc c'est un truc qu'on ne connaîtra jamais en fait. Hein. Hein. On connaît celle des autres, donc on sait ce que c'est a priori, hein. Mais la nôtre, non. On n'aura jamais un contact avec la mort, par définition. Donc, c'est pas la peine de penser et de faire des élucubrations et d'avoir des grandes angoisses pour quelque chose qui ne se reproduira pas, puisqu'on n'aura jamais contact avec elle. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire.
Bonjour. Je vous avais quand même une vision très, très pessimiste du système de prise en charge des personnes âgées en France. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres pays européens ou dans d'autres continents qui s'en sortent mieux dans cette prise en charge ?
Ben, je ne suis pas allé dans les maisons spécialisées en Suède, mais j'ai vu dans les rapports comment les choses se passaient. Il y a, si vous voulez, il y a deux images. Il y a l'image de l'Afrique où il n'y a rien, mais il y a une communauté. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un qui est crevé dans la rue. On prend et on le réchauffe et puis on discute et on palabre et il y a du monde. Alors, ce n'est pas toujours efficace, mais ceci dit, quand on compare aux EHPAD, c'est pas si mal, hein. Et au moins, il se passe quelque chose. Il y a un lien qui s'établit. Mais là, ce n'est pas structurel. C'est la civilisation, c'est la façon dont les gens vivent. Dans les pays du nord de l'Europe, où c'est beaucoup plus froid, c'est organisé. C'est-à-dire qu'on a tendance à favoriser le séjour, enfin le lieu du domicile le plus longtemps possible, en mettant en place des structures qui sont organisées. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il n'y a pas 40 numéros de téléphone. Il y a une personne, un service à appeler, qui s'appelle gériatrie, si vous voulez, qui a toujours un service hospitalier, mais qui ne va pas prendre la personne pour l'hospitaliser, qui va se déplacer, qui va venir voir, va faire un bilan et va dire, bon voilà, pour que vous puissiez rester à domicile, il faut faire ça, ça et ça et ça. Et c'est mis au point. Et on ne discute pas. Et c'est pris en charge. C'est pris en charge, ce qui nivelle face aux ressources, si vous voulez, puisque c'est comme quand vous êtes malade, il y a une prise en charge. Bon. Ensuite, quand les choses se dégradent, il y a un suivi médical. Là. Les gens qui viennent tous les mois ou tous les deux mois voir comment ça se passe, ou plutôt s'il y a un problème. Et puis ensuite, quand ça s'aggrave, effectivement, là, il y a l'équivalent de nos EHPAD, mais qui sont, si vous voulez, beaucoup plus médicalisées dans la mesure où elles sont d'abord... Il n'y a pas d'EHPAD privé, c'est public. C'est à côté des services hospitaliers, ce qui permet aux médecins, sans avoir à traverser la ville ou aller à droite, à gauche, d'y aller rapidement quand il y a besoin de faire une visite. Et c'est quand même beaucoup plus efficace. Ensuite, il y a des pays comme l'Allemagne où ça se rapproche un peu de nous, et puis l'Italie, on n'est pas très différent, si vous voulez, hein. À part que là aussi, on a tendance à garder les gens au maximum à domicile et à moins les EHPAD. Hein, c'est un profit colossal. Hein. C'est colossal. Il faut voir ce que les sociétés privées qui ont investi dans les EHPAD ont mis dans l'immobilier à Paris. avec tous les bénéfices qu'ils ont faits. C'est très rentable. Un séjour en EHPAD, c'est quand même 2700 euros par mois. Hein ? Alors, c'est pris en charge par la société, enfin par l'État, si vous êtes au-dessous du niveau de ressources, etc. C'est-à-dire, si vous gagnez 600 à 700 euros, ben, on vous prend vos 600 à 700 euros et on complète pour que vous puissiez y rester. Mais pour quelqu'un qui n'est pas au bas, eh ben, il faut payer. Hein. Donc là, il y a un problème aussi. Hein. Donc, je pense que le système est perfectible, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, mais que c'est pas une priorité, parce que je pense qu'il s'adresse à des gens qui sont à la retraite, qui sont pas actifs, qui pèsent moins dans la société, qui vont pas défiler, qui vont rien casser, qui vont être gentils, qui peuvent voter hein, quand même, hein, mais bon, les votes, ça change, etc. Voilà, bon, donc... Et à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur, parce que pour avoir fait de la chirurgie très pointue, on change la aorte dans tous les sens, les carotides, les machins, etc., c'est très bien, ça. Il n'y a pas de problème. C'est utile, ça évite des catastrophes. On a fait beaucoup de progrès, mais mettre tout l'argent là, mettre 300 000 euros par mois dans un traitement qui permet de survivre quand on a un cancer du pancréas un mois de plus, et c'est tout. Il faut réfléchir à la politique de santé qu'on veut faire. Hein. Et je pense que là, je crois qu'on peut faire mieux. Mais je ne vois pas comment ils vont s'y prendre.
Merci pour votre conférence. Moi, j'adhère complètement à vos propos. Je trouve que votre discours n'est pas du tout défaitiste. Au contraire, il est très réaliste. Et je parle de quelque chose que je connais bien, puisque j'ai 4 personnes autour de moi qui sont malades d'Alzheimer, dont 3 en EHPAD. Et malheureusement, effectivement, le fonctionnement des EHPAD questionne. D'ailleurs, j'ai lu le livre Les Fossoyeurs. Je le recommande parce que vraiment... Alors, c'est dur à lire, c'est vrai que c'est très dur. Mais c'est tout à fait la réalité. Il se passe des choses quand même en EHPAD qui sont limites, quoi. Limites du respect de la personne. Et quand on est proche de son malade, on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements qui sont insupportables. Quand on va avoir accès au dossier médical, par exemple, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres. Je pense qu'effectivement, c'est un... le vieillissement de la population, c'est bien. Dans quelles conditions, ça, voilà. Je pense que c'est une priorité quand même par rapport au gouvernement. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Vieillir, c'est bien. Il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent, c'est bien. Mais dans quelles conditions, quoi. C'est ça le gros problème. Je voulais vous donner. Je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit.
Ce que vous dites, madame, est tout à fait ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas une maison de retraite cool, hein. C'est, comme vous dites, c'est soins minimum, profit maximum. Et si vous voulez, 60 lits à 2700 euros par mois, c'est pas mal. Le service, qu'est-ce qu'on leur donne ? On donne un lit, l'éclairage, le chauffage, un petit déjeuner et deux repas. Voilà, c'est tout. Hein. Et le reste, alors, bon, il y a le change, les couches. On fait une toilette le matin quand ils ont le temps. Mais il y a beaucoup de... Si vous voulez, c'est pas du tout... moi, j'ai été extrêmement surpris. Hein, venant d'un service hospitalier que je tenais, où je regardais tous les détails, la poussière sur les meubles, enfin tout, quoi, en dehors du traitement, en dehors des soins. Hein. Et là, ça n'a rien à voir, hein. C'est une zone qui est un peu hors de contrôle, liée au fait que l'État laissait les structures privées. Alors, j'ai rien contre le privé quand il est bien fait. Aux États-Unis, le privé est très bien fait. Mais enfin, il faut être riche et bien portant, ça vaut mieux. Mais si vous voulez, là, l'État a laissé, donc il ne peut plus reprendre. Et quand on va visiter les EHPAD, ben, on trouve ce qu'on trouve. Hein, Et ce qui est un peu navrant, c'est que les gens qui ont 50 ans, 40, 50 ans, 60 ans, qui ne sont pas encore dans la dépendance, qui sont actifs, s'en occupent absolument pas. Alors que, sauf quand leur père ou leur mère ou leurs frères et sœurs ont des problèmes et qui sont amenés à rentrer dans ce monde en se disant « Oula, ça fait un peu le cimetière, hein, c'est froid, c'est... il n'y a pas de respect vraiment, on laisse les gens, enfin, bon. » Et je pense que vu une demande d'emploi avec des jeunes, c'est vraiment des jobs pour des jeunes. On n'a pas besoin de gens très spécialisés pour dire bonjour à une dame, pour lui serrer la main, pour l'asseoir à une table, pour la faire manger, parce que voilà, c'est tout, hein, pour la laver, pour la nettoyer, pour qu'elle soit bien, pour laver ses affaires. C'est pas besoin d'avoir passé des concours. En France, on fait toujours, il faut des diplômes partout, mais là, on n'a pas besoin. Hein. Il faut un cœur, et puis la volonté de le faire. Quoi. Et puis, il faut les payer aussi. Et donc, voilà. Mais je pense que il y a quand même, si on avait un gouvernement qui était... alors, quel que soit le parti politique, c'est pas un parti politique, c'est une question d'éthique. Et même une question de réflexion financière. Parce que vu les profits qui ont été faits par les EHPAD, il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas de l'argent à dégager et qu'on ne peut pas l'investir dans les soins aux patients et dans l'entretien des lieux. Je pense que si on en faisait une des structures à but non lucratif contrôlées, parce qu'elles ne sont pas contrôlées, hein. Il n'y a pas une EHPAD sur deux où il y a un médecin coordonnateur. Alors que c'est dans la loi. Mais on ne veut pas voir. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a des choses à faire et que ce serait vraiment utile, quoi. Hein. Alors, évidemment, l'argumentation au niveau du ministère, quand on en parle, c'est que il vaut mieux investir dans la naissance, dans les maternités, dans les enfants, parce qu'un enfant sauvé, c'est 40 ans, 50 ans de vie. Ce qui est vrai, hein. Et que c'est fondamental. Et les vieux, c'est peut-être moins important. On va voir ce qu'on peut faire. À chaque fois, c'est on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, à la fin de la réunion, on fait rien, quoi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez pessimiste.
Oui, il y a quelques EHPAD publics en France quand même. Donc, est-ce que leur gestion est très différente des EHPAD privés ?
Pour le patient, c'est à peu près la même chose. Il y a peut-être, mais c'est pas. Il y a peut-être une différence dans les EHPAD qui ont un environnement, une zone Alzheimer, parce que là, elles ont une dotation différente. Et théoriquement, si elles respectent le mode de fonctionnement, il y a quand même des moyens. Et surtout, comme il y a un environnement qui s'est plus médicalisé quand même, où on fait plus attention aux gens, il y a une atmosphère qui est différente. Mais ça dépend des... Je ne connais pas toutes les EHPAD qui ont une zone Alzheimer, hein, mais ça dépend des... Ça doit dépendre des lieux, mais au plus il y a du monde et au plus quand même il y a une attention. L'EHPAD, vous passez à 8h du soir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous passez dans une chambre, il y a une vieille dame qui est là, son truc, qui essaie d'avancer, qui bute contre une porte, ça passe pas. Et puis vous entrez dans une chambre, il y a une dame qui crie « Au secours, au secours, au secours !» l'infirmière qui... Il n'y a plus d'infirmière. L'aide-soignante qui doit s'en occuper, elle est occupée au deuxième étage, elle n'entend pas, vous entrez... Elle a du caca sur les cheveux, elle en a partout. Bon, vous allez vous chercher la personne, vous lui dites. Et la personne vous dit, bon, ben, ça attendra de demain, là, je peux pas. Hein. Donc, si vous voulez, c'est ça. Hein, c'est... Oui, mais il faut... Je pense que c'est une question de population aussi. Je pense que c'est pas que le personnel. Il faudrait que les gens prennent ça à cœur et... plutôt que faire des groupes non lucratifs pour je sais pas quelle connerie, les roses ou les églantiers ou je sais pas quoi, ou on ferait mieux de... Parce que je pense que si les gens se mobilisent, c'est, le problème est tellement important. Quand on en parle à l'ARS, ils n'en ont rien à foutre. Sauf quand il y a un problème. Une plainte, un truc. Alors là, c'est, on ferme l'EHPAD, c'est tout de suite... Et pourquoi tu fermes les pas des questions en fait, des gens qui sont là, réfléchis 3 secondes, il y a eu un problème, il faut savoir pourquoi. Mais comme ils n'ont pas les données, ils ne savent pas, puis voilà. Et il faut remplir des formulaires. L'ARS demande des formulaires dans tous les sens qui ne correspondent à rien. Quoi. C'est l'administration, mais ils ne se déplacent jamais, ils ne vont jamais voir. Sauf quand il y a eu les scandales. Alors là, ils sont déplacés un peu partout. Ça a duré 15 jours, après c'est fini. Hein.
Est-ce qu'on connaît le taux de malades d'Alzheimer en EHPAD en général ?
Alors, il y a les EHPAD qui accueillent des malades à Alzheimer qui n'ont pas la zone Alzheimer, qui font comme ils peuvent. Alors, c'est surtout les EHPAD qui sont un peu dans la campagne, parce qu'avant, ces gens, ils étaient dans les fermes et on s'en occupait. Les familles s'en occupaient. Là, maintenant, on s'en occupe plus trop. Donc, au bout d'un certain temps, hop, ça passe en EHPAD, et là, c'est difficile de refuser. Hein. Donc, ces gens sont avec les autres. Tant que c'est possible en vie commune, et qu'ils ne sont pas agressifs, et que ça peut passer. Dans les EHPAD qui sont spécialisés, à chaque fois, c'est des unités de 15 à 16 pour des raisons d'organisation et d'équipe. Parce qu'à 15-16 lits, ils ont... Vu le quota, ils ont le quota qu'il leur faut de psychothérapeutes éventuellement, d'infirmières, etc. Donc c'est à peu près 15-16 quand ils ouvrent, quand il y a un service dédié. Mais qui est fermé, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'EHPAD, vous pouvez aller dans l'EHPAD, mais pour rentrer dans les zones Alzheimer, il y a un code et vous devez faire le code. Quoi.
Est-ce que quand on est âgé, quand même bien lucide, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement choisir sa fin de vie ?
Moi, je réponds oui, hein. Sans aucune ambiguïté. Hein. C'est votre vie. Hein. Quand j'étais jeune, chef de clinique, moi, j'étais à Paris, hein, j'étais formé à Paris, à la PHP, j'étais dans un service de chirurgie où un oncologue très très connu, Charles Sandberg, qui était ministre de la Santé d'ailleurs pendant 3 semaines, avant de se faire virer, faisait l'oncologie. Et il travaillait dans un hôpital spécialisé, mais il voulait, pour éviter qu'il y ait cancer au-dessus du service, il donnait des consultations dans un service de chirurgie, dans un hôpital où moi j'étais chirurgien. Et toutes les semaines, il avait sa consultation qui était pleine, avec des gens qui venaient pour des cures de chimiothérapie, etc. D'accord ? Et j'ai vu passer plein de célébrités, parce qu'il était extrêmement connu, il était très médiatique, il était marié avec une actrice qui était très connue à l'époque, et c'était quelqu'un qui était dans toutes les soirées mondaines, etc. Ceci dit, il était médecin, et il mettait dans mon service, dans mon aile, chaque semaine, il y avait un patient qui avait demandé un arrêt de vie. Et c'était il y a longtemps, hein, avant les lois, les trucs, les machins. Et donc, le soir, et c'est, en général, du fait du recrutement de Schanzenberg, c'était des gens qui étaient très, très connus, qu'on voyait à la radio, à la télévision, des chanteurs, des gens Brassens et tout, enfin, des gens quand même qu'on connaissait, quoi. Et ils venaient, ils se couchaient dans un lit, on mettait une perfusion. Et puis, au début, il venait lui-même. Et puis après, ça continuait, puis il n'est plus venu lui-même. Là, j'ai trouvé ça un peu sec, quand même. Parce que c'était l'infirmière qui mettait le truc, voilà, salut, au revoir. Mais les gens étaient d'accord. Hein. Ils avaient demandé, c'était des formes extrêmement évoluées, des gens qui souffraient horriblement et qui voulaient arrêter, quoi. Et... il n'y avait pas de... Si l'âge devient insupportable, les troubles que ça entraîne ne sont pas compatibles avec ce que vous pensez être jouable, bah stop. Mais
à mon avis, il ne faut pas en faire une loi. Parce que dès que vous mettez, il faut protéger les gens au maximum, sans faire d'excès thérapeutique, parce qu'il y a des fous partout. Hein. Mais il faut avoir le malade et le respect de la personne dans la tête. Mais il faut vous méfier. Si vous faites des lois, vous allez avoir des textes d'application, vous allez avoir la virgule qui va être placée à un endroit, vous allez avoir demandé des autorisations écrites, ça va passer par votre médecin référent qui va envoyer un spécialiste, qui va envoyer à je ne sais pas qui va revenir, etc. Alors que là, avec Schanzenberg, c'était direct. Et puis, ça a aussi un bon côté, c'est le côté humain. C'est que, bon, il n'était pas fou, il disait pas oui à n'importe qui. Hein. Il avait le dossier, il travaillait à 3 médecins d'ailleurs. Il y avait un avis de 3 qui était concordant, plus la demande du patient. Donc, bon. Et c'était des consultations publiques, il n'y avait pas d'enjeux financiers. Et je me souviens, il y a une fois une jeune femme qui est venue pour ça, parce qu'elle venait de la région nantaise. Et il m'appelle, Schanzenberg, il me dit viens voir cette personne. À l'époque, je faisais de la chirurgie digestive aussi, je faisais un peu tout. Et il me dit regarde, je ne sais pas quoi en faire, elle demande une perfusion, mais elle est vraiment jeune, elle avait 27 ans. Et je regarde la dame, elle était, cette jeune femme, elle était blanche, mais blanche comme une feuille de papier. Et je soulève les draps, elle avait une tumeur qui traversait la peau, qui suintait à la peau, qui était nécrosée, mais qui sortait, quoi. Et elle avait un ventre comme ça, c'était qu'une tumeur. Alors je regarde le scanner, il me dit, oui, bon, voilà, ils vont lui faire la chimiothérapie, c'est complètement con, ça ne servira à rien, avec une tumeur qui pèse 10 kilos, c'est pas possible. Et puis, il me dit, mais tu veux pas essayer de faire quelque chose? Ça va être difficile. Je parle à la jeune femme, elle dit, non, faites ce que vous voulez. J'en discute avec mon patron de l'époque, qui me dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Hein. Et je l'ai opéré avec l'interne qui était là, et ça a duré une douzaine d'heures, mais on lui a tout enlevé. Elle s'est retrouvée avec un anus iliaque, parce que c'était une tumeur du rein qui envahissait le côlon et tout, mais temporaire, hein, qu'on a rétabli après. Et le lendemain, elle était rose. Donc si vous voulez, elle a vécu 30 ans sans problème. Elle a eu de la chance. Mais ce qui veut dire que la demande d'arrêt, moi je pense que ça se passe entre un patient et un médecin qui connaît bien le dossier et qui apporte sa contribution aussi. Parce que quelquefois, le malade peut se tromper. Quelquefois... Non, il faut y aller, quoi. Il faut essayer de faire quelque chose. Et quand c'est vraiment râpé, d'accord. On le sait, hein, quelqu'un qui a un cancer du pancréas qui évolue avec un envahissement de la paroi abdominale, qui a des douleurs atroces dans le dos, c'est très bien que la chimiothérapie ne marche pas. On sait très bien que la chirurgie est dépassée, on sait très bien qu'on ne pourra rien faire. Et qu'il va mourir comme ça, en dormant pas, c'est horrible. D'accord. Mais il faut que la famille soit au courant. C'est pour ça que les lois, il y a le bon sens. Et l'humanité, quoi. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur.